incertitude trimballe une vieille.
Tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui. Nous sommes en 2017, nous sommes le mercredi 18 et c'est l'émission de 119. Voilà, il y avait plus ou moins des chiffres 17, 18, 19. Enfin, bref, c'est pas tout à fait dans l'ordre. Émission Christophe Rollin au micro, comme tous les mercredis. Gérald est ici, ainsi que notre invitée Evelyne Postic, une artiste plastique. Elle va nous parler pendant toute cette heure de qui elle est, certes, mais de ce qu'elle fait également. C'est une artiste lyonnaise. Et vous verrez, c'est très particulier ce qu'elle fait. C'est très étrange. Isa, hélas, ne pourra pas poser de questions. D'ailleurs, Isa, si tu nous écoutes, nous te saluons. Nous te disons mercredi prochain. Vous verrez que c'est très particulier. Et d'ailleurs, notamment, elle vient de me l'indiquer à l'instant, en tapant Google, vous pourrez trouver une de ses illustrations qui a été volée, piratée par le groupe Dazed Sun Lemonade. Je me trompe, le groupe c'est plutôt L Ritual et l'album serait Dazed Sun Lemonade. Enfin bref, nous on va quand même être correct avec eux, on va les diffuser alors qu'ils ont piqué une illustration, ils ont piqué une œuvre de notre artiste, de notre invité Evelyne Postic. Ils ont piqué cela pour en faire une illustration pour leur album. Voilà, nous discutons jusqu'à 15h comme tous les mercredis. Vous nous écoutez sur le 102.2 de la bande FM à Lyon ou bien sur radiocanu.org. C'était donc, je l'ai indiqué en début d'émission, une sorte d'hommage à des pirates éhontés. Le groupe, j'arrive même pas à identifier. S'agit-il de El Ritual ou bien de Dazed Sun Lemonade? Je crois que c'est ça. Evelyne, ouais, c'est ça. Vous le savez,
Dazed, oui. Dazed Sun Lemonade.
Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Evelyne Postic. Gérald, c'est bravo. Nous avons un invité pour aujourd'hui.
C'est extrémiste.
C'est un peu compliqué.
Je voulais l'inviter depuis longtemps et puis fait le larron.
Bah c'est
un plasticien fortement grippé, resté sous la couette, mais il y a tellement de plasticiens intéressants.
Moi, ce que j'ai pu voir d'Evelyne, ce que j'ai pu constater, et je l'ai dit sur le site, c'est quand même très particulier. C'est bien qu'on puisse l'avoir derrière un micro pour en parler, parce qu'il y a vraiment il y a quelque chose. Et j'ai cru comprendre, une artiste à présent reconnue de manière internationale.
Bah, puisqu'on lui prend ses œuvres même au Mexique sans lui demander son avis, elle a traversé l'Atlantique.
Donc nous n'avons pas écouté jusqu'à la fin le premier titre de cet album, Dazed Sun Lemonade, Monk Meat Natural, je ne sais pas ce que c'est. De toute façon, n'en parlons plus, ce sont des voleurs, ce sont des pirates, ils ne vous ont même pas fait signe, ce n'est pas beau. Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Salut Gérald.
Bonjour.
Première question, comme d'habitude. Et Evelyne, qui êtes-vous? Comment êtes-vous venue aux arts plastiques? Quel a été votre cheminement? Qu'est-ce qui a déclenché cette activité?
Au tout début de ma tendre enfance, je voulais être danseuse. Et j'étais vraiment passionnée de la danse. Et puis, j'ai pas pu continuer à cause d'une maladie pulmonaire. Pour moi, je ne pouvais faire que quelque chose d'artistique. Voilà.
Une maladie importante, on peut en parler un peu, ou c'est gênant, c'est quelque chose de, ça nécessitait des interventions?
Ouais, on m'enlevait un bout de poumon, tout ça.
Ah oui, non, d'accord. Ah oui.
Donc je fais beaucoup de dessins avec des poumons. J'ai dans mes dessins, il y a toujours des poumons.
Symétrie voilà. Aussi axiale qu'on trouve dans les poumons, peut-être qu'on retrouve. Comme un leitmotiv, non?
Ouais, je travaille pas beaucoup sur la symétrie, mais.
Et ça, c'était dans un jeune âge, ou un peu plus à l'adolescence, ou?
J'ai été malade, disons de 5 ans à 13 ans, et puis.
Ah ouais.
J'ai fait des maisons d'enfants comme ça se faisait à l'époque. On me mettait dans des maisons pour me faire grossir de soupe, avec des traitements assez particuliers. Bon, ça c'est une autre histoire.
Pour la scolarité, ça fonctionne?
Ben oui, justement, c'était au moment de rentrer en CP et je savais pas lire à l'âge de, je sais pas, de 6 ans. J'ai loupé une année. Après, fait, je rattrape. Enfin bon.
Est-ce que c'est intéressant? Oui, ça a pu signifier quelque chose, ça a pu créer quelque chose. Non, une lecture un peu plus tardive. Est-ce que vous avez développé davantage un goût pour les images ou pour?
Non, mais parce que je pense que j'étais assez isolée. Je vivais chez mes grands-parents avec ma mère et j'avais pas trop. Il fallait pas trop que je bouge à la maison. J'avais un grand-père assez assez colérique et donc. Je me suis réfugiée là-dedans, voilà. C'est comme la lecture, c'est comme voilà, on se crée un monde à soi pour survivre et continuer.
Un monde intérieur ou extérieur? Est-ce que déjà vous commenciez à dessiner un peu?
Non, un monde intérieur, mais ça vient petit à petit, ça mûrit parce que quand on est petit, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Hein. Voilà.
Mais vous étiez-vous déjà attaqué à des pages blanches? Est-ce que déjà vous réalisiez des productions? Aucune réalisation particulière?
Non, c'est venu plus tard.
Gérald, tu as...
C'est intéressant de commencer par cette biographie un peu douloureuse, parce que ça me fait penser à Matisse qui a commencé à dessiner sur un lit d'hôpital. On retrouve des... un fil rouge, pas mal d'artistes commencent à créer dans des situations.
On a parlé du Mexique.
De douleur, de maladie.
Est-elle mexicaine, cette grande artiste à laquelle je pense?
Frida Kahlo, oui, aussi. Bon,
il y a quand même une forte marque de la.
C'est un invariant, il y a beaucoup de gens qui peignent différemment après une maladie ou qui commencent à créer ou s'intéresser à l'art comme moyen de survie.
Ouais, puis c'est une façon de sortir ce qu'on a souffert, on le sort autrement.
C'est une forme de thérapie, d'exorcisme.
Voilà, exactement, et ça permet de continuer à vivre normalement. Voilà.
C'est même vital, ça devient vital.
Ouais, ouais, c'est vital, ouais.
Mmh. Est-ce qu'il y a quand même une rencontre qui s'est faite avec un professeur d'art plastique, peut-être?
Non,
est-ce
pas
que
du
quand
tout,
vous avez fini par être scolarisé, non, il y a pas.
Pas du tout, non, pas non. du tout. C'est
plus tardif.
Tout ça a été. Ça j'ai a créé moi-même, j'ai découvert tout moi-même.
Ah oui, j'ai lu ce terme sur Internet, sur votre site, d'ailleurs, je crois, Arts Insolites, artiste autodidacte. Enfin, du moins, votre oui. nom apparaît assez nettement sur ce site.
Oui, il y a beaucoup d'artistes qui sont autodidactes, qui ne sont pas passés par des écoles, parce que pour moi, ce n'est pas très utile.
Je sais pas, vous dites beaucoup d'artistes, je sors là à l'instant, Gérald, de l'exposition Matisse, le laboratoire intérieur. Il est quand même beaucoup dit qu'il a suivi. Une longue formation et puis même ensuite une longue déformation. Il a, et je crois même qu'il y a le terme qui est employé dans ces petits, à chaque fois ces petits textes, une instruction par les maîtres, ainsi qu'une désinstruction par les maîtres encore. Enfin, du moins les.
J'ai des
maîtres
académies tous les matins. Il avait un modèle en permanence.
Des maîtres très présents. Donc attention. Enfin, je ne suis pas sûr, Evelyne, que les artistes autodidactes soient si nombreux. Oui, il y en a. Ça c'est évident.
Alors là, on rentre au cœur du débat parce que nos auditeurs qui nous écoutent ne savent pas qui, peut-être certains. Qui est Evelyne Postic? On parle encore, c'est difficile à la radio de parler d'images, de visuels, on les a pas sous le nez. Alors, il va falloir qu'on parle de catégories artistiques, peut-être d'art singulier, de création franche, d'art brut, d'influence de tous ces courants, d'art outsider, d'art singulier.
Oui.
Où vous situez forcément, même si vous êtes autodidacte. Bon, de toute façon, autodidacte, c'est aussi apprendre par soi-même, mais c'est apprendre quand même, c'est biberonner peut-être justement à tous ces courants, à l'art brut, à Dubuffet, etc. Concrètement, comment ça s'est passé? Je suis en train de lire votre biographie, là, vous avez fait des rencontres importantes.
Il y a beaucoup de courants et de tiroirs inventés par les critiques qui ont besoin de mettre des étiquettes. Quoi.
Ouais.
Moi, je me suis laissé faire, hein, c'est tout. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais être... artist outsider comme le disent les Américains
on dit singulier en France mais c'est l'équivalent
ou singulier brut, les vrais bruts c'est ceux
qui sont à Lausanne, on les connaît.
C'est autre chose c'est des artistes qui sont de vrais artistes parce qu'ils sortent des choses intéressantes mais qui sont aussi
aliénés
soutenus par des structures hôpitaux ou ateliers et c'est très bien pour eux. C'est devenu une espèce de mode en ce moment.
Un point car presse a fait un numéro il y a pas longtemps d'ailleurs. Qui l'eût cru?
Alors oui.
Ça vous a choqué cette revue Art Presse?
Non, j'ai pas lu.
Non, c'est un numéro intéressant. Hein, Art Presse 2, oui. Les mondes de l'art brut.
Ludo Plin. Alors, je prononce sans doute pas correctement son nom, mais.
Le trimestriel d'Art Presse en 2013.
C'est un très bon artiste, mais qui est pas brut. Hein,
Il
est comme moi, quoi.
Il y a un numéro d'Artension aussi, un hors-série numéro 17 sur l'Artension, l'art singulier aujourd'hui.
Oui.
274 créateurs hors normes. Donc en fait, il y a un marché, hein, il faut bien le dire, n'ayant pas peur des mots, il y a un marché qui s'est constitué et dans la mouvance de l'art brut, et petit à petit qui s'est commercialisé, comme la culture sait bien le faire, et le marché récupère tout ça.
Oui, mais c'est très bien pour ces artistes-là, parce
qu'ils fait vivre.
Ils ont été oubliés pendant longtemps, et pas pris au sérieux, et leur cote est très très basse, hein, souvent, donc s'il y en a quelques-uns qui peuvent en profiter de leur vie, pendant leur vie, sans attendre leur mort, quoi, mais c'est très bien, voilà.
Allez Gérald, un tout petit peu de chronologie encore, puis ensuite on écoutera Jean Daucardi. Un saltimbanque lyrique. Ce sera la pause musicale avant de peut-être effectivement davantage entrer dans cette qualification de son œuvre. Peut-être ne faisons pas comme cherchons à nous défier des critiques qui mettent donc des étiquettes, mais on peut les comprendre. Ils cherchent un petit peu, je suppose, à essayer d'indiquer des choses et à dire des choses. Donc, un tout petit peu de chronologie. Vous arrivez à César singulier, brut, premier ou je ne sais. Vers une période un peu plus avancée. Oui, non, exactement. je fais exprès d'employer tout un tas de
mots politiquement corrects pour parler des arts tribaux et des primitifs. Oui.
J'utilise tout un tas de mots et également je fais de manière maladroite, certes, mais bon, vous arrivez à César, à cette forme plastique un peu tardivement ou bien assez jeune. Enfin, c'est donc scolarité, non, c'est terminé. À 20 ans, vous n'êtes pas encore dedans.
Non, je ne suis pas encore dedans parce que je me suis mariée une première fois et J'ai eu 3 enfants et j'avais une vie assez mouvementée.
Ah bah certainement.
Parce que
non, mais je vous crois.
Mon premier mari était très instable et on avait toujours des problèmes de logement, de travail, etc. Mmh. Donc j'ai pas pu m'occuper de moi. Et quand j'ai divorcé, je suis venue m'installer à Grenoble avec mes 3 enfants. Et là, c'est tout sorti. C'était prêt. Mmh. Comme une rivière longtemps contenue, tout est sorti. Voilà.
Il faudrait vivre pour faire ressortir l'expérience, quoi. Il fallait vivre d'abord tout ça, peut-être, pour en arriver là, après, que ça sorte d'un coup.
C'est une maturité, mais en même temps, je n'avais pas physiquement les possibilités de m'occuper de moi et de travailler. Bon, à cette époque, je travaillais la journée, je faisais des petits boulots, et le soir, je peignais, je dessinais, etc. Mmh. Donc j'étais en forme, je pouvais travailler encore le soir.
Ouais. Alors après, vous avez commencé à exposer peut-être, à être un peu reconnu à...
Alors au début, j'ai
ça commence comment,
fait des rencontres,
montrer à quelqu'un, c'est ça, ou à des...
Au début, j'ai commencé à, je faisais des, parce que j'étais très attirée par l'Afrique noire, toujours par les morphologies de l'Afrique noire, et je faisais des personnages avec des grands yeux, des grosses lèvres, il y avait des mains de partout, c'était différent, mais on retrouve des choses quand même dans mes dessins. Et c'était très coloré. Mais je me suis inventé ce graphisme toute seule dans mon coin. Et puis, je connaissais à l'époque, j'étais à Grenoble, j'allais voir Antoine de Galbert dans sa galerie. Ah. Il avait une petite galerie rue Bayard. Je discutais avec lui. Puis un jour, je lui ai demandé de venir voir mon travail. Et puis, il m'a guidé vers à l'époque c'est il m'a guidé vers Louis Marcel, c'était la première personne avec qui j'ai fait une exposition de mon travail, voilà, il était à Rouen et ça a commencé comme ça aussi.
C'est intéressant, vous utilisez à l'instant le terme de travail, vous dites je lui ai demandé de venir voir mon travail. À l'origine, hein, étymologiquement, le terme de travail, c'est lié un peu à une souffrance. Hein, le terme tripalium, qui est un instrument de torture. Et est-ce que vous avez dit tout à l'heure que c'est après un certain temps de je sais pas comment appeler ça, d'incubation, qu'il y a eu une forme de libération. Vous avez commencé donc à créer. Et est-ce que il y avait toujours donc cette trace un peu, même si vous parlez de motifs africains à l'instant, de différentes choses, est-ce qu'il y avait une sorte de souffrance, non? Ou alors vous avez utilisé le mot travail comme vous auriez pu dire, je lui ai proposé de venir voir mes œuvres et de venir voir ce que je produisais, ce que je faisais, ce que je réalisais.
Parce que c'est travail, parce que c'est tous les jours. Mais c'est pas quelque chose de lourd. Bah, quelquefois, j'ai un peu mal au. J'ai une tendinite, etc. Bon, il y a des choses dans ce genre-là, mais je peux m'arrêter quand je veux. J'ai pas. Faut pas. À moins que j'ai à rendre pour une exposition des dessins qui sont pas prêts. Bon. Mais bon, si on dit travail, c'est.
Travail passionné, et puis.
Ouais, c'est pas péjoratif. c'est pas dans le mauvais sens.
Non, mais bien entendu, c'est pas ça, comme c'est effectivement un mauvais sens que je voyais, mais c'est. Voilà. C'est,
parce que
c'est important.
Ça remplit ma vie tous les jours, voilà.
Une quotidienne. Donne du sens. Et puis aussi, vous apporte de quoi vivre aussi, puisque vous vendez votre travail, justement, le fruit de votre travail.
Ouais, je commence un peu à vendre.
On parlera de l'actualité dans la deuxième partie de l'émission. Alors, vous avez une grande actualité.
Après Grenoble, vous êtes revenu à Lyon, puisque vous êtes natif de Lyon. Vous êtes. Ah, ça fait quelque temps, Géraldin, une vraie artiste lyonnaise. Sébastien Derain, la semaine dernière, c'était Chambéry, je crois. Là, nous tenons une lyonnaise. Une fenote.
Je me suis un peu promenée dans toute la France.
On a le droit, on a le droit.
Puis,
il faut revenir à Lyon.
Je suis revenue à Lyon parce que j'ai rencontré Bernard, qui vivait à Lyon, c'est mon compagnon. Donc, j'imaginais pas du tout revenir dans cette ville. Au début, je connaissais plus les rues, j'étais perdue. Et je suis très, très heureuse d'être revenue ici. C'est une belle ville qui a beaucoup changé, voilà. depuis mon enfance.
Ah oui, j'imagine.
Vous parliez de galerie, j'ai trouvé quelques-unes de vos œuvres, ou même un portrait, je crois l'avoir mis sur le blog, je ne sais plus. Non, peut-être pas. La galerie d'Étinger.
D'Étinger Meilleur.
Oui, c'est ça. Ouais. Qui se trouve à quel endroit, Gérald ?
On en avait déjà parlé d'ailleurs, à l'occasion de l'exposition Marjolaine, voilà. L'arrivée, c'est Savonnette.
Voilà,
début d'année.
C'est ça.
Et d'ailleurs, il y a une exposition bientôt, un nouveau vernissage vendredi, deux artistes.
Ouais, et vous avez carrément une entrée sur ce site. Il y a un onglet avec artistes associés ou artistes, je ne sais plus, galerie d'artistes, et il y a Postic. Je ne sais pas si je l'indiquais en début d'émission, P-O-S-T-I-C, très simple. Postic Evelyne, on voit un portrait et quelques-unes des œuvres. Vous exposez assez régulièrement là-bas
certaines de vos œuvres se trouvent. Je suis dans la galerie en permanence depuis 2009. Et j'ai fait trois expositions personnelles à la galerie d'Étinger-Meilleur. Donc voilà, c'est l'une de mes galeries à Lyon. Voilà, j'ai une galerie à Lyon. Et
c'est important.
Voilà.
Pour être vu.
La visibilité, oui, ça, certes.
Ouais. Et voilà.
Tout à l'heure, on a parlé d'Antoine de Galbert pour les auditeurs. Lui, il était à Grenoble, une petite galerie, puis il a fondé la Maison Rouge à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. Une excellente institution qui montre beaucoup...
Qui va fermer en 2018.
Ah.
Parce qu'il a décidé, je pense que... Il a décidé de partir au sommet de la Maison Rouge pour faire autre chose, mais toujours dans les arts, je pense. Donc voilà.
Une sortie.
On est un peu triste, mais je pense qu'il va. Il aura d'autres beaux projets.
Sans doute. Il a exposé une partie de sa collection au Musée des Beaux-Arts de Lyon il n'y a pas si longtemps, 2-3 ans, un beau catalogue.
Ouais.
Et puis c'est une institution qui a proposé vraiment des superbes expositions. Quand il a invité Bruno Decharme, la collection ABCD, etc., il y a 2-3 ans.
Ouais.
Gabrychevski, il n'y a pas longtemps. Des artistes hors normes, très intéressants.
J'ai vu votre nom également associé à une autre galerie parisienne, je crois que c'était Claire. J'ai perdu
sur la page Google. J'ai fait une expo de groupe chez elle, mais ça apparaît toujours en haut de la page Google.
C'est ça.
Mais je travaille avec une autre galerie qui s'appelle la galerie Polysémie, qui est de Marseille et qui fait qui est très active, qui fait beaucoup de salons. Et jeudi, je serai représentée par cette galerie à Outsider Art Fair à New York. Voilà. Et c'est une galerie qui bouge beaucoup, qui montre beaucoup ses artistes, c'est très bien.
Et
on parlait de Paris, vous avez aussi exposé en 2012 à la Halle Saint-Pierre.
Oui.
Après, dans la galerie de la Halle Saint-Pierre, pas dans les grandes salles, mais c'était intéressant. Après un voyage en Afrique, un rêve réalisé.
Je suis allée en Afrique noire en 2012, parce qu'Alain d'Étinger... À l'époque, il y allait souvent.
Il continue, je crois.
Et donc, il m'avait proposé de venir à Lomé, au Togo. Donc, je suis partie là-bas et c'était une belle expérience. On est monté au nord du Bénin, à Nati Tangou, à voir les maisons de Samba en terre, tout ça.
Les Tata Samba,
Les Tata de Samba.
Est-ce que vous avez-vous pu créer un peu là-bas, ou alors plutôt seulement des croquis? Non,
je sais pas. Ah si, je fais deux dessins là-bas, parce que j'emmène toujours de quoi dessiner quand je voyage. Parce que le dessin, ça donne beaucoup de liberté. Je peux m'arrêter, reprendre, je peux faire ça n'importe où. Moi, j'ai pas besoin de modèle, c'est tout dans ma tête.
Ça, c'est pratique.
Ça, c'est vraiment bien.
Vous n'êtes pas que dessinatrice, vous considérez avant tout comme une dessinatrice, mais on parlait tout à l'heure au café, avant l'émission, de vos sculptures, parce que vous êtes aussi sculptrice.
Oui, je
Mais vous ne montrez pas souvent vos sculptures ?
Je les monte de temps en temps, au cœur au ventre, à Lyon, là, à la galerie Le Cœur au Ventre.
Vers le soleil, dans le Vieux Lyon, au bout de la rue. Avant la montée du Gourguillon, sur la gauche, vous avez une galerie d'art, Outsider, pour faire simple.
Rue Tramassac. Et sur une petite place, là. Donc, c'est une galerie qui expose art singulier, art brut. Et elle avait fait une exposition d'une semaine avant les fêtes, là. Mais bon, c'était un peu rapide. rapide.
Oui.
Mais voilà.
Mais on peut encore voir vos sculptures à travers la vitrine.
Oui, parce que pour l'instant, ils y sont.
Donc les curieux, précipitez-vous, rue Cramassac. Vous verrez, donc ce sont des assemblages.
C'est des assemblages avec des poupées et des matières textiles. Et je travaille sur la condition féminine et sur la guerre. Donc j'ai des sculptures avec des petits soldats, avec des armes, des machins comme
les
ça.
Les fameux Dinky Toys,
mais
en plastique fondu.
Et voilà, c'est deux sujets qui me tiennent à cœur. Bon, il y en a plein de sujets intéressants, mm-hmm. mais bon, c'est un peu mon côté militante que je peux m'exprimer à travers mes sculptures de cette manière, voilà. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup élargir les choses en sculpture, mais je manque de place, le stockage, tout ça, c'est un
vrai problème pour les plasticiens,
pour beaucoup d'artistes d'ailleurs, ouais. Et puis les galeries, les sculptures, il n'y en a pas beaucoup qui... Ça leur fait un peu peur. Enfin bon,
la sculpture se vend mal.
Ça se vend
pire que la photographie.
Voilà, bon, mais c'est pas pour ça, ça m'empêcherait pas de faire des sculptures. Voilà. Si j'avais de la place, je remplirais mon hangar facilement, mais bon.
Vous avez aussi fait un voyage à Tanger ?
Tanger, j'ai une galerie à Tanger.
Toute l'Afrique, Afrique noire, Afrique, le Maghreb, c'est
une résidence d'artiste à Tanger, avec l'Institut français.
Ouais, avec l'Institut français. Alors j'ai une galerie à Tanger qui s'appelle la Galerie Conil. Et je vais partir de nouveau en résidence au mois de mars. Pour travailler. Là, je vais me remettre un peu à la peinture, toujours dans le même esprit que mes dessins, mais j'ai toute une série de portraits que je vais faire. J'ai envie. Comme là-bas, je vais avoir de la place, et après, je les laisse sur place. Voilà.
Acrylique, huile
Non, acrylique.
Acrylique. Mmh. Oui, l'huile est une technique trop lente, assez chère.
J'en ai fait beaucoup. L'huile, c'est. On a de l'acrylique qui est aussi intéressante que l'huile. Hein. Mm-hmm. Maintenant, ça s'est bien amélioré.
Oui.
Donc, l'acrylique.
Les dimensions des...
Ce ne sera pas grand, ça. Ça sera du 40 par 60. Par contre, l'autre résident, j'avais fait 3.
C'est intéressant. Vous dites que ça ne sera pas grand, comme si c'était une opposition à des...
Parce que j'ai fait des très grands formats.
Combien ?
En dessin. Qui
150,
font 2 mètres.
190 x 155, par exemple.
Ouais, voilà. Qui font 2 mètres par 150, 160. Aussi des toiles. Ma dernière résidence à Tanger, j'ai fait 3 toiles de 110 par 130. Voilà.
Vous appréciez ces grands formats
Moi j'adore, parce que je rentre dans mon monde, là. Mon rêve, ce serait de peindre dans une salle ronde, du sol au plafond.
Comme l'orangerie de Nymphéa de Monet, peut-être. Une grande installation vivante.
J'aimerais
dans laquelle on pourrait rentrer.
Ouais, j'aimerais beaucoup
un habitacle où elle a du buffet avec sa dernière période sculpturale, architectonique.
Raconter toute une histoire sur les murs, le plafond.
Mais ça viendra, ça, c'est sûr.
Eh bien, l'émission sera réécoutable, enregistrable, tout ça. Donc, nous faisons un appel à des commanditaires, non ? Enfin, vous ne savez pas,
à des
mécènes, l'État, pourquoi pas, l'État français, il pourrait tout à fait vous confier une chapelle, non ? Enfin, je ne sais pas. Pas
forcément. L'État,
bon,
l'État, c'est un peu difficile. Hein.
Mince, alors, quelqu'un d'autre.
Je remarque dans le catalogue que j'ai sous le nez, là, qui est très très bien fait, avec des belles reproductions, que même quand vous dessinez, il y a quand même l'aspect liquide. Vous utilisez beaucoup de l'encre sur lin, sur canson, et l'encre, c'est une forme de... On parle d'art graphique, c'est là que ça comprend l'aquarelle, les encres, mais il y a une dimension picturale, liquide dans l'encre quand même.
Ouais, ben l'encre, on s'en sert pour écrire, on s'en sert pour dessiner.
Et vous travaillez à la plume, au pinceau ?
Je fais des aplats avec des encres de couleur et je retravaille au retring par-dessus.
Ah, je l'ai vu ce mot de retring apparaître sur un site. C'est quoi ? On en avait déjà parlé, je crois, Gérald.
C'est un feutre qu'utilisent les dessinateurs BD,
C'est des stylos fins.
C'est pas très épais.
À bout dur avec plus ou moins épais.
Voilà.
Ça va de 0,05 à 1,2. Et on choisit suivant ce qu'on veut faire, l'effet qu'on veut donner. Voilà.
Donc, on en a plusieurs, donc. Enfin, vous en avez plusieurs.
J'ai toute une ribambelle. Hein.
Et tous les formats, le plus important. Et donc là, Gérald, à l'instant, tu disais au retring, c'est ça qui est retravaillé,
enfin, bah oui, très linéaire, en même temps très coloré, mais en même temps, comment on pourrait, c'est très difficile à décrire en fait. C'est des sortes de circonvolutions. Il y a une dimension, dans votre biographie, on parle de votre attachement, votre intérêt pour la biologie, pour la science, et on sent cette dimension parfois anatomique, ouais, ou scientifique dans votre travail, par la variété des motifs choisis, l'intérêt pour le vivant, le floral, le décoratif, l'organique.
J'ai une idée, Gérald.
Je suis passionnée par la biologie. Ouais.
Une autre source d'influence avec l'Afrique.
C'est un documentaire sur la biologie, l'infiniment petit, l'évolution des espèces, tout ça. J'adore ça. Mm-hmm. Ouais, la transformation des formes.
Et un art métamorphique, hein, parler.
Depuis le début, moi, c'est mon truc, c'est l'adaptation de l'être vivant à son environnement, qui change de forme et de couleur pour survivre. Et c'est le cas, en effet, comme ça, nous, les animaux, les insectes, c'est le cas, et c'est absolument extraordinaire, ça. Et là, voilà.
Il y a un côté broderie aussi, vous parlez du textile.
Gérald, petite pause, je propose, ouais, une pause pour que nous prenions notre respiration, pour peut-être que notamment Evelyne puisse puiser de l'inspiration pour davantage parler de son travail, parler de ses œuvres. Écoutons de Jean Do Cardi, un saltimbanque lyrique. Écoutons, je propose...
Tu connais Evelyne, c'est celle qui a amené le CD.
C'est le CD, nous vient
de Place des Vosges à Paris, c'est ça?
Voilà, ouais, ouais.
Ben je propose d'écouter la Fanfare and Gold Song de Purcell. Et puis voilà. Et puis à 14h35, il sera temps ensuite, enfin du moins, il est à présent 14h35, mais dans quelques minutes, il sera temps donc de davantage entrer dans le travail.
Et on lira un petit texte
piquons,
de Bernard Noël, parce que.
Volons ce mot Musée des Beaux-Arts, allons dans le laboratoire intérieur d'Evelyne Postic.
Voilà, grâce à Bernard Noël qui a préfacé un de ses catalogues très beaux d'ailleurs.
musicale. Aujourd'hui, notre invitée, Evelyne Postic, artiste plasticienne qui nous a apporté différents CD. On écoutait des Mexicains en début d'émission dont on ne parlera plus. À présent, parlons de peut-être un peu plus de Jean Docardi, saltimbanque lyrique, qui chantait à l'instant Fanfare and Gold Song, Génie du froid, extrait de l'œuvre de Purcell. Je tenais aussi à passer ce morceau parce que je sais qu'on a parfois un auditeur, un certain Jean-Pierre, qui aime bien ce morceau. Donc, au moins, enfin voilà, c'est l'occasion de lui faire coucou, salut. Vous, Evelyne, vous le connaissez, hein, ce Jean Docardi.
Oui, c'est un personnage haut en couleur et qui a d'ailleurs un appartement que je connais, je ne suis pas encore allée vraiment, mais j'ai vu des photos complètement recouvertes de sol au plafond d'œuvres d'art et des sculptures très, très baroques, très colorées, etc. C'est, voilà.
Gérald, toi qui es en train de...
Tu triches,
t'as plein d'éléments sous les mains, t'as plein
d'un texte que Bernard Noël a écrit
Evelyne
Postic.
Qui est-ce ce Bernard Noël?
Le grand Bernard Noël, poète, essayiste, penseur, qui se fait un peu vieux, qui va peut-être un jour nous quitter, parce qu'il doit avoir 90 ans, 87 ans, qui a écrit pour beaucoup d'artistes, sur beaucoup d'artistes, qui a un grand auteur important.
Et notamment
un texte sur la dièse des atomes, donc un dessin à l'encre sur canson de 2014 qui est exposé à la galerie des Tinges et Meyer, toujours, de 50 x 40 cm. Donc je lis que la fin, je vais pas lire le texte en entier. Hein. Donc ces diverses formes dégagent une sensualité qui auréole les silhouettes dont la nature féminine s'impose à l'évidence, même si peu d'entre elles affichent un symbole sexuel dont les doubles lèvres leur servent de médaillons et non d'organes. Il y a des réseaux et peu importe qu'ils soient sanguins ou nerveux, car la circulation qu'ils assurent se développe à travers tout le dessin. La circulation revient souvent. Cependant, dès que votre regard a été captivé, regardez-vous ces images comme des dessins ou comme d'extraordinaires créatures faites d'une matière visuelle extrêmement charnue sans être corporelle. Toutes ces personnes ont des masques pour visage, fort peu de corps et généralement pas de membres. Elles sont souvent fleuries, parées de draperies, parfois de longues tresses ou de longues coutures colorées. En fait, rien n'est si net, mais tout pousse à rêver. Et d'abord l'environnement des figures qui multiplient fréquemment boules et pelotes multicolores. Le regard insiste, veut identifier, cherche des ressemblances. Il voudrait savoir à quoi s'en tenir. Mais la beauté du travail d'Evelyne Postic consiste au contraire à le dérouter pour l'orienter complètement vers l'imaginaire et l'ouvrir à cette réalité seconde qui, derrière l'apparence, donne vers l'intérieur et la vision. Bernard Noël. Très beau texte.
Oui.
Qui a l'art quand même de décrire souvent très précisément une œuvre et en quelques mots, hein, le texte fait une page et il résume tout à fait l'univers métamorphique, comme dit Anne Cornil dans un autre catalogue de votre travail.
Alors comment est-ce qu'on peut le caractériser quand
après Bernard Noël, ça va être difficile.
Est-ce figuratif? Non, mais de manière générale.
Il a presque tout dit. Il y a la métamorphose, l'organique, le tissu, la pelote.
Du dessin, de
l'intérieur.
Oui. Ouais. Je relis toutes les formes que j'ai fait dans mes dessins par des espèces de petits tuyaux. Parce que, en effet... Les atomes qui nous entourent, ce sont les nôtres aussi, les atomes des matières inertes, des matières vivantes, c'est les mêmes atomes. Donc on est complètement lié à la nature, complètement on en fait partie, et voilà pourquoi je dessine comme ça.
Tout est lié, mais
c'est instinctif, hein, c'est pas
conceptualisé, même si vous arrivez très bien à le dire avec des mots.
J'ai pas dit j'allais faire ça.
C'est pas une théorie scientifique appliquée au dessin.
C'est des choses qui sont en moi qui sortent.
Oui, mais c'est la sensation, d'ailleurs.
C'est intéressant, vous l'avez quand même dit tout à l'heure, vous peignez sans modèle parce que tout est dans votre tête. Donc vous savez quand même à quoi vous allez arriver quand vous produisez une œuvre, je suppose. Non,
je commence de toute façon par un personnage central. J'ai fait un croquis au trait et après je remplis. Alors je sais pas ce que je vais mettre à l'intérieur. Ça vient après. Je sais que j'aurai soit une tête, soit un personnage central, et avec d'autres petits personnages qui vont se greffer autour, où je vais incruster du végétal, effectivement l'organique, tout ce qui est caché, qu'on voit pas, c'est mystérieux, en même temps ça fait peur, et en même temps c'est poétique, même si voilà.
Et c'est pour être observé, on circule à l'intérieur, comme on circulerait dans un corps, en fait.
Ouais, c'est voilà.
Et la dimension de remplissage, donc il y a quand c'était tout à l'heure, je parlais de symétrie, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose toujours de central qui arrive. Vous partez d'un centre, souvent un visage, et après vous allez de tous les côtés, quoi. Vous répandez.
Je remplis.
Il y a l'idée de remplissage, mais ça c'est un trait commun qu'on retrouve chez plein d'artistes d'art brut aussi. L'idée c'est une angoisse du vide.
Ouais, ça doit être ça. Hein. Ouais.
C'est étrange cette idée de remplissage, de répétition du geste aussi forcément. Dans la durée, dans le temps. Le temps s'abstrait, vous sortez du temps quand vous faites ça.
C'est le cocon.
Ouais, retour au cocon. Et vous oubliez que le temps passe du coup finalement, quand vous faites ça.
Oui, oui.
Vous sentez le temps, vous dites il nous reste 15 heures à dessiner. Vous écoutez de la musique.
J'écoute de la musique, j'écoute la radio. Je fais des pauses, je vais faire autre chose.
Vous éloignez, vous prenez du recul pour regarder.
Oui, je prends mon temps.
Comme font tous les artistes en général.
Je prends mon temps, parce que c'est pas, je peux pas travailler dans l'effervescence comme sur une peinture gestuelle. Je peux pas. Quelquefois, j'aimerais d'ailleurs, parce que je suis bloquée là sur ma table et. J'ai mal partout et c'est
travail qui prête à la tendinite. Il y avait pelote, le mot pelote dans le texte de Bernard Noël. Il y a un côté, c'est votre tricot un peu ça, non? Un tricot amélioré,
une Pénélope, sans son Ulysse.
Le syndrome de Pénélope, peut-être.
Ouais, le tricot, j'aime pas ça.
Non, non, mais justement, mais il vaut mieux faire des dessins comme vous le faites que peut-être du tricot, quoi qu'il se fait des choses très très bien.
Non, mais c'est vrai, il y a des artistes qui travaillent le textile, qui font des choses magnifiques. C'est vrai.
Scotty Johnson, exposé au musée d'art brut.
Il faut
lourdement handicapé, fait des beaux tricots.
Beaucoup de. Ouais, mais c'est toujours de une espèce de patience, mais on n'y pense même pas. Le temps qu'on a mis pour faire ça, chaque fois qu'on me pose cette question, cela m'énerve.
Et là, vous avez travaillé beaucoup pour en arriver là.
C'est pas du tout intéressant, le temps.
Et bien, en même temps, c'est quand même une question importante, même si c'est pas intéressant, que c'est un cliché, c'est la tarte à la crème. C'est vrai qu'on a horreur quand les gens disent. Alors, ça vous a mis combien de temps pour faire ça? Mais dans votre travail, il y a quand même une dimension temporelle qui est assez fascinante. En plus, vous avez une sacrée production en quantité, quoi. Vous dites que vous travaillez tous les jours et ça se voit. Parce qu'il y a une énorme.
Je m'arrête.
Une œuvre importante.
Je m'arrête de temps en temps. Et puis voilà. Et puis il y a une évolution, même dans ce que je fais, quoi. Parce qu'en ce moment, je travaille sur des couleurs un peu plus douces. Parce que je mets pas les mêmes fonds, et donc j'avais envie de, en superposant les traits, de créer d'autres couleurs, voilà. Mais c'est toujours le même graphisme. Mais j'aime bien changer de papier aussi. De papier, en ce moment, je suis sur de la toile. J'ai des grands rouleaux de 2,10 m que je découpe. Et puis avec un grain fin, quoi. Et sinon, je travaille sur du lavis, du papier comment ça s'appelle, Népal. C'est un papier très léger qui fait papier fait main. C'est très léger, on voit plein de petits bouts de bois dedans et tout ça. Bon, voilà. Alors tout de suite, ça change les choses. C'est une façon de me stimuler, j'aime bien.
Vous variez les plaisirs, vous modulez les supports, modulez les techniques, tout en restant dans un univers qui reste très cohérent.
C'est toujours ma technique, mais les outils qui changent.
Les outils.
Ouais.
Alors l'histoire des titres maintenant, peut-être, est-ce que vous avez une idée?
Les titres,
un titre avant ou vous donnez un titre après la réalisation d'un travail terminé?
Après. Après.
Toujours après, avant.
Non.
On peut en lire quelques-uns des titres à la suite. Ce serait intéressant de voir la cohérence.
Je t'en prie, recherche des titres, parce que moi, il faut quand même que je lance ces questions, enfin, à défaut de questions, des appels à précision. À l'instant, Evelyne, vous parlez de couleurs. il faut qu'on les évoque, ces couleurs. Gérald, je sais pas, tu vas certainement avoir le vocabulaire. Et puis le remplissage, on n'a pas indiqué quel remplissage, comment. Moi, je sais pas comment on nommait ça, des formes de hachures ou je ne sais quoi.
De tuyaux, je trouve, très bien, des tuyaux.
Oui, mais.
Circonvolutions répétées.
Enfin, c'est.
Comme des grosses mèches de cheveux.
Ne sont-ce pas des sortes de
hachures? Des leus.
Ça donne du volume également à tous ces tuyaux, c'est vrai. Enfin, disons, il me semble une texture indiquée. On part sur les titres. Tu en as trouvé des titres? Ben, cherche les titres. Evelyne était en train de s'apprêter à répondre sur ces tuyaux ou ces hachures.
C'est une façon de poser le trait. Hein. C'est comme en gravure. On va faire des traits différents, des formes différentes, et ça va donner des rendus différents pour des matières différentes. Voilà, c'est tout. C'est simple.
Dans la densité, l'espace qu'on ménage de vide entre les variétés infinies, en fait.
Ouais, la longue, ça se fait tout seul, c'est instinctif. Ouais.
Et ces couleurs et ces titres, alors Gérald, tu
alors la déesse des atomes, hein. Donc, figure centrale dont vient très bien parler Bernard Noël, avec un fond noir, du blanc, du rouge, un bleu ciel, du rouge un peu lit de vin. Ça.
Ouais, c'est des couleurs sourdes, hein. c'est pas des couleurs primaires.
Et pas vives, pas.
C'est
pas,
des couleurs mélangées.
Comme diraient les jeunes aujourd'hui, flashy.
Non, c'est pas flashy.
C'est pas flashy, hein. Alors, on a la transfusion de rêve, très beau titre d'ailleurs. 18-13 cm, un petit format sur papier recyclé 2015. Deux figures un peu totémiques, on aurait pu parler du totem aussi. Protection. Là, on revient.
On peut encore parler de tout. Il nous reste 10 minutes. On va écouter André Robillard.
Fond crème avec des.
Mais ça, c'est un papier, justement. C'est un papier recyclé ou un papier népal. Donc ça donne. Il est plus jaune. Mm-hmm. Donc ça réchauffe les couleurs automatiquement.
Et oui, par contraste. Donc le rouge apparaît, c'est le même, mais il apparaît beaucoup plus vif.
Et là, on a aussi les tirages du catalogue. Hein, c'est pas toujours conforme.
Oui, par rapport à la réduction. Toujours.
Ouais. Par rapport au
la protection, une figure qui en enserre une autre, c'est très énigmatique. Et en même temps, ça parle tout de suite. Et on peut voyager et spéculer, et essayer de comprendre et se balader à l'intérieur. Hein, c'est comme toujours. Les deux cœurs. On dirait presque plus que des poumons que des cœurs, d'ailleurs, une fois de plus.
Nous revenons à ces poumons.
C'est des cœurs dans des poumons, mais il y en a deux.
À ce traumatisme enfantin, déclencheur.
Un cœur de rechange.
Vous parlez d'un syndrome d'abandon aussi dans votre texte. Ça aussi, c'est
ça, c'est mon enfance, hein, je suis désolée.
Ça serait commun à beaucoup d'artistes aussi, je crois.
Ça, c'est vous.
Mais c'est bourgeons.
C'est très intéressant. À défaut d'être désolé, il faut plutôt dire tant mieux. Enfin, du moins, les auditeurs peuvent certainement puiser peut-être des éléments, des clés. Ah, d'accord, alors c'est ce que je vais faire. Ou disons oui, alors je peux être un artiste moi aussi. Gérald, on écoute André Robillard et puis on continue à
cœur de
à
sang, le berceau bleu. Je finis les titres, après on écoute André Robillard.
Mais très bien.
L'écoute de la pensée. Ouf. Le nombril du monde. Voilà un thème très porteur dans le monde dans lequel on vit. Tout le monde se prend pour le nombril du monde. Comme dans la chanson de Jeanne Moreau. Les ballons rouges, les ailes de brouillard, une série très totémique avec des figures centrales, comme vous le disiez. La petite dentelle, déesse verte, là c'est sur Canson, on a des formats plus grands, 30x21. Nourriture terrestre, les flots de la bouche, avec effectivement des sortes de leuses qui sortent d'une bouche. Vierge en cocon, cheveux d'ange.
Il faudrait que tu indiques la référence de ce catalogue que tu feuillettes là, pour
l'avenir,
les auditeurs.
Tête de mousse.
Consulter aussi.
Intériorité au pluriel. Entre-là. Un entre-là. La reine des épines. L'œil du papillon. On est dans le vivant. Mémoire vive. Les ailes de l'avenir. Gestation. Le polichinelle dans le tiroir. Bon, c'est un peu d'humour aussi quand même.
Bah oui, avec le nombril du monde.
Petit rêve entre amis, graines de vie, allez je finis. Je fais tout le catalogue, les gardiens, 100 ans de réflexion, 100 ans ça fait beaucoup. Le collier d'émeraude, Tanger, la porte de l'Afrique.
Oui.
Ah,
on retrouve.
C'est un grand que j'ai fait en résidence d'artiste en 2015 à Tanger, voilà.
Dans l'Institut de la Croix, c'est ça?
Non,
c'est autre chose, ça.
Non,
vous retournez à Tanger, ça c'était.
Non, l'Institut français a un espace qui s'appelle l'espace de la Croix.
D'accord.
Un espace d'exposition.
Transfusion de vie après transfusion de rêve, le monde en entier. Bon voilà, c'est un cosmos, c'est une cosmogonie personnelle.
C'est des vents.
Les fils de la ville, les esprits de la ville. Alors là, on passe à 120 x 100 cm, 1m95 sur 1m55. Un détail, on vous voit travailler dans la page centrale, on voit la démesure de ces grands formats et. Voilà, la lune éclaire l'obscurité, le cœur bat dans chaque pierre du chemin, des grands formats. qui évoque un peu l'univers de Fred II. On en parlait un petit peu.
Ça, c'est un dessin que j'ai fait pour l'investiture d'Obama. Ah, j'ai commencé.
D'accord.
C'est Alain Détinger qui l'a.
D'accord. Alors pourquoi avoir fait ce dessin pour c'est le côté engagé, ça, un peu
emprise
sur le monde réel.
Parce que j'étais contente qu'Obama soit président des États-Unis.
Et comme Trump, beaucoup de gens. Et Trump, voilà. Ça vous fait quoi?
Et voilà, donc voilà.
La lune éclaire l'obscurité, c'est un signe d'espoir.
Oui, c'est, oui,
ça
c'est un signe d'espoir. Ouais, ouais.
Alors tous ces ectoplasmes bizarroïdes.
Oui, mais ça.
Et ce visage de profil.
Oui.
C'est très étrange.
Allez, un petit
entre
peu
l'animal et l'organique,
un
le
petit peu
végétal.
D'André, un petit peu d'André Robillard. Qu'est-ce qu'on écoute, Gérald? J'ai manqué ce que tu m'as indiqué tout à l'heure.
On va écouter la récup.
Ah non, mais c'est trop court, ça. C'est 20 secondes.
Ouais, ça suffira. On entendra sa voix et puis on en passera un autre après. Tu mettras le temps des cerises après.
Ben, très
bien. Il sera là. On écoute la 11 et puis après on écoutera la 7.
En tout cas, auditeurs, ne manquez pas le retour tout à l'heure de Pascal. Blues des Canus aura bien lieu à 15h.
On dit des fois des machins de récupération qu'on met en l'air. Bah, tu vois que c'est pas, tu vois que c'est quand même utile parce qu'on les ramorce et tu vois que ça donne de l'utilité, on sait qu'on peut s'en servir. Tu vois, c'est la preuve. Mmh. Tu vois que c'est utile quand même. Hein, tu vois que c'est pas, on le jette, mais d'un seul coup, on récupère.
Ouais,
et puis tu vois,
avez...
ça devient incroyable.
C'est parce que vous avez des idées.
Des idées, voilà. Et alors, je sais que ça va me servir vraiment de service. Et que je sais que avec ça, ce que je récupère, je vais faire quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. En accordéon, les plus forts, c'est les Allemands et les Italiens.
D'accord.
Honner et puis Fratelli Crozio. C'est à l'italien, ça. Ah, les Italiens, ils sont forts, aussi, mm-hmm. Les bons machins d'instruments d'accordéon. Hein. Mm-hmm. Bon, j'en ai un machin italien, moi. C'est un Scandali, j'ai moi. Mm-hmm. C'est marque italienne. Mm-hmm. Mais tu sais, une fois, j'ai joué de l'accordéon à 9h, moi. Non, il était 6h. Hein. J'étais tellement occupé avec mon accordéon, j'ai regardé ma montre, dis donc, il était 11h30, dis donc. C'est incroyable, tellement que j'étais après moi. J'ai même pas vu le temps passer.
Vous avez pas mal au bras?
Ben non, mais j'étais assis.
Oui.
Ah oui, parce que tout le bout.
Un peu de tendinite peut-être. Non, encore autre chose, Gérald.
Il y avait le temps des souris, c'était la 7. Là, il parlait de ses accordéons. Donc c'était André Robillard qui a fait un spectacle vivant subsistance il y a quelques années. L'album Tuer la misère. Robillard et les Endimanchés, c'était un spectacle intéressant en allemand. André Robillard, on va dire que c'est même pas de l'art singulier, c'est carrément de l'art brut, je dirais. Hein. Puisqu'il est atteint quand même d'un fort trouble psychiatrique, on va dire. Il a un handicap.
Ouais,
sérieux.
On pourrait le dire, mais...
On pourrait le dire, ça apporte
bien,
rien.
Mais on est tous...
Ouais, on va dire. C'est la question de la marge et de la folie,
ouais,
des degrés divers.
Oui, on n'est pas fou.
Non, il n'est pas fou du tout. Et puis, il assure, il a de l'humour. Il fait des œuvres superbes, très connues, qui ont été exposées aussi à la MAPRA. Ses fameux fusils de bricolo, de récup, qu'il fait dans sa résidence où il travaille depuis 30, 40 ans.
Ouais,
30 ans. Il est très connu aussi et il expose dans le monde entier.
Ouais, ouais.
Le musée d'art brut de Lausanne, un peu partout. C'est une figure emblématique de l'art, on va dire, autre.
Oui, il est dans l'art brut, lui.
Plus l'art brut que l'art singulier.
Ouais, ouais.
Ce portrait que tu viens de faire, Gérald, est-ce qu'on pourrait l'appliquer à Evelyne Postic? Est-ce qu'on pourrait aussi dire un peu...
C'est encore autre chose.
Un autre portrait, c'est une autre figure, c'est une autre personne. Encore quelques minutes, Gérald, as-tu fini avec les titres? Non, on n'en finit jamais avec les titres.
L'exploration d'un univers personnel jusqu'au bout et sans compromis, peut-être.
Je voudrais parler du livre...
Une actualité.
Et la Belle de Mai à Marseille.
Voilà.
Et New York.
Polysémie. Non.
Et beaucoup de choses encore à dire sur l'actualité, parce que maintenant, on va faire la prospection d'avenir. On a 3 minutes pour parler de tout ça.
Mon Dieu, 2 minutes. Oui, bien entendu.
Bien sûr.
Evelyne.
En ce moment, il y a une exposition qui s'appelle Under Brut à la friche de la Belle de Mai, qui a été créée par Le Dernier Cri à Marseille. Et Le Dernier Cri, c'est une maison d'édition qui existe depuis 20 ans. Et ils éditent que des livres d'artistes en sérigraphie. Voilà, donc c'est une très belle exposition sur un plateau de 400 mètres carrés. Il y a des très beaux Raymond Reynaud, je ne sais pas si vous connaissez, qui est aussi, dans l'art singulier, et qui a disparu. Et d'autres artistes qui sont dans le milieu underground. Alors il y a des choses assez pétantes.
Il y aura de la musique aussi, des concerts peut-être. C'est un lieu dévoué à toute la culture dans toutes ses dimensions, la Belle de Mai.
La Belle de Mai, oui, il y a beaucoup d'ateliers d'artistes, d'artisans aussi.
C'est une sorte de grande zéro qui aurait perduré.
Ça. Oui, c'est bon. Il y a des plateaux pour les expositions. Et là, je vais sortir un livre avec Le Dernier Cri en 2017 sur les Vierges Noires. Donc ça sera que des personnages, des vierges noires à ma façon, évidemment, et en format A3. Voilà.
A3, hein, double A4. Dans le dépliant très bien fait donc, concernant cette exposition à Marseille, Friche la Belle de Mai, qui se tiendra jusqu'au 16 avril. Non.
Oui, 16 avril.
Du 17 décembre, elle a commencé jusqu'au 16 avril. On a deux citations. On pourrait rendre hommage à Laurent Danchin, donc un spécialiste de l'Outsider qui vient de mourir. Il y a une phrase de lui qui est dans le dépliant. C'est cette face cachée de l'art contemporain qu'il faut réintroduire dans l'histoire si l'on veut comprendre le vrai sens de l'art d'aujourd'hui. Et puis en vis-à-vis, on a une citation d'un des pères, on va dire, de cette mouvance artistique qui est plurielle. Même si on essaie de la faire entrer dans beaucoup de tiroirs, il y a beaucoup de spécialistes, il y a un marché, il y a tout ce qu'on veut. La vraie création ne se soucie pas d'être de l'art ou non. La fameuse phrase de Dubuffet.
Exactement.
Ouais. Emblématique. Voilà. Et vous êtes en train aussi de réaliser un livre en sérigraphie, justement, d'un format A3. Prochaine édition limitée, très belle, dont j'ai un exemplaire A4.
Oui, il sortira en 2017.
Une fois de plus, Gérald, il faudra réinviter notre invité, c'est pas possible. On va demander à avoir deux heures
de New York. Oh là là, il n'y a pas que les Mexicains qui connaissent
New York, San Francisco, Obama, Colombé.
Pour faire des pochettes de disques.
On n'a pas tout dit.
Les New-Yorkais exposent aussi.
J'ai dit, l'année dernière, la foire a été perturbée par une tempête de neige à New York. Pendant deux jours, il n'y avait plus personne dans les rues. Donc, c'était assez catastrophique. Mais cette année, tout ira bien.
On va voler une heure au Panorama Météo. Et on fera deux heures d'émission.
C'est pas une foire, c'est un musée d'art marginal en Serbie. En
Gérald, il est 15h.
À Jagonina.
D'accord. Pardon, Pascal, avec les gros yeux.
Vous reviendrez à l'occasion de la sortie de ce livre.
On peut trouver votre site, toutes ces informations, cette actualité sur un site personnel.
Moi, j'ai mis plein de choses.
J'ai un blog.
Il y a une page Facebook aussi. J'ai tout mis.
Un blog.
Écoutez, auditeurs, retrouvez donc tous les renseignements sur le site comme d'habitude.
Et on mettra un visuel, on met lequel?
Sinon, sortez d'ici là, on trouvera quelque chose. Sortez, allez à l'Opéra, au TNP, au Célestin, partout, allez voir également à la galerie d'Étinger pour voir les œuvres de Evelyne Postic, et c'est très bien. À très bientôt, on se reverra. Hein. Gérald,
allez, au revoir.
À la semaine prochaine.
Evelyne, d'être venue, ça passe très vite.
Très bien. Salut tout le monde. TNP, Célestin, je crois, la semaine prochaine, oui, plutôt Célestin, avec une pièce très intéressante. Pour l'instant, c'est le Blues des Canuts, avec Pascal qui est de retour. Blues des Canuts, la semaine prochaine, ce sera Georges Feydeau. Voilà, c'est très différent, mais ça se ressemble.
Et on mettra une œuvre de Evelyne Postic sur le blog.
Voilà. Salut tout le monde, bye bye.